Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 17 janvier 2023. Nous sommes un de ces mardis matins après un week-end prolongé aux USA, un de ces mardis matins où l'on se demande encore pourquoi on est venu hier si c'est pour faire monter le CAC de 0,28% et le DAX de 0,31%. Au-delà du fait que l'Europe a donc encore pris un peu d'avance sur les États-Unis. Depuis le début de l'année, c'est d'ailleurs le thème à la mode. Est-ce que 2023 est l'année de l'Europe? La réponse, on l'aura plus tard. Mais si, en plus, la guerre s'arrête en Ukraine et que Zelensky est nommé à la place de Vander machin truc en Europe, il y a un bon espoir que l'Europe devienne la nouvelle puissance économique mondiale. Bref. Hier, l'Europe est montée sans volume et aujourd'hui est un autre jour. Comme d'habitude, au lendemain d'un week-end prolongé aux USA, on se demande pourquoi on est venu au bureau lundi. Ça tombe bien, moi je n'y étais pas, mais j'ai quand même suivi les choses d'un œil pour me dire que j'avais bien eu raison de ne pas y aller. On ne va donc pas non plus prendre la tête à résumer la journée alors qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. On notera que l'Europe était très concentrée sur les prix du gaz. En effet, depuis le début de l'année, ces derniers ont encore perdu plus de 27% et se retrouvent à des années-lumière de là où il était lorsque Poutine a décidé d'agrandir la mer Russie. L'ensemble des experts en investissement ou presque se félicitent de cet état de fait et s'encouragent mutuellement sur l'avenir de l'économie locale. On est même presque content des chiffres de l'inflation en Europe et tout semble reparti comme si de rien n'était. Pendant ce temps, on notera aussi que la Suisse a terminé sa séance en boulet de canon et se retrouve au plus haut depuis un bon moment. Symboliquement, le SMI a passé la barrière des 11 400 sans grande raison spécifique, si ce n'est le fait que tout montait dans l'indice. Alors forcément, ça aide. Nestlé licenciait dans le domaine du café, Novartis prenait 2% et même Roche montait de 1%, ce qui est assez rare en ce moment pour être signalé. En revanche, il y a aussi eu Temenos qui prenait près de 10% après un gros coup de sac au niveau du management et des résultats pourris. Et visiblement, les investisseurs ont tendance à voir plus loin que le trimestre dernier dorénavant. Et puis, il y a le Crédit Suisse qui a augmenté le target d'Ipsomed de 165 à 235 francs. Le titre a pris 10% pour fêter ça. Maintenant que ce lundi est derrière nous, on peut commencer à se poser des questions sur la semaine à venir. Les indices européens sont en mode inarrêtable, ça on a bien compris. Mais par contre, il va quand même falloir se poser des questions sur les indices américains. Le S&P 500 va devoir casser définitivement les 4000 points si l'on veut continuer à espérer. Quant au Nasdaq, il est encore loin de l'objectif des 12 000 et beaucoup trop suracheté pour qu'il trouve la niaque suffisante pour y aller du premier coup. À moins qu'Apple rachète Alphabet et que Microsoft fusionne avec Amazon et Pfizer. Nous nous retrouverons donc à nouveau dépendant des chiffres du trimestre qui vont arriver dès ce mardi. On va s'occuper de Goldman Sachs et de Morgan Stanley. Et puis ensuite, nous mettrons toute notre énergie sur l'avalanche de chiffres économiques qui vont nous tomber dessus entre aujourd'hui et jeudi soir. Sans oublier la Banque du Japon qui va annoncer son plan de lutte contre l'inflation dès demain. Il est vrai que l'on parle beaucoup des chiffres trimestriels, je parle beaucoup de ça en tout cas en ce moment, mais il va y avoir du lourd du côté macro dans les jours à venir. Si l'on fait abstraction de la BOJ de demain, on va devoir observer le New York Empire State Manufacturing Index qui sortira ce soir et qui est susceptible de donner quelques menues indications sur l'état de santé des entreprises dans l'état de New York. Et puis comme il ne faut pas non plus oublier que ce matin, la Chine a publié une montagne de chiffres économiques. Grosso modo, le yuan reculait un poil après les chiffres du GDP, de la production industrielle et des ventes de détail et démontré que l'économie chinoise a progressé à un rythme nettement plus lent en 2022 que l'année précédente, ce qui n'est pas non plus une monstre surprise compte tenu de l'épisode Covid qu'ils viennent de vivre. En tous les cas, l'économiste qui est surpris, il devait être en vacances à Tahiti depuis un bon moment et son Wi-Fi devait être connecté aux informations des années 80. Cependant, tout n'est pas perdu puisque l'économie a progressé à un rythme supérieur aux attentes au cours du quatrième trimestre. Les données relatives à la production industrielle et aux ventes de détail pour le mois de décembre ayant également dépassé les attentes. Pour faire simple, l'éloignement de la politique anti-Covid de Xi semble porter ses fruits et on retrouve un brin d'espoir. À l'heure actuelle, la Chine est en baisse de 0,25%, Hong Kong de 1% et le Japon s'envole de 1,3% en attendant la sanction de la Bank of Japan demain. Je l'ai assez dit que demain, il y aurait la Bank of Japan qui va annoncer son plan anti-inflation. Oui, bon, alors on peut passer à la suite des événements de la semaine. En Europe, dès demain, on aura une avalanche de chiffres de l'inflation dans tous les sens. Et étant donné l'effondrement du prix du gaz et les nouvelles mesures d'aide du gouvernement français pour les ménages les plus précaires, l'inflation dans la zone euro devrait faire comme son cousin américain. Fondre comme neige au soleil et ensuite on aura l'andouille qui sert de ministre des Finances à Macron qui viendra à la télé avec son col roulé pour s'auto-passer la pommade. Et puis il y aura jeudi. Jeudi devrait être une grande journée intéressante puisque l'on entamera la journée avec les chiffres de Procter & Gamble et nous la conclurons avec ceux de Netflix. Procter ne devrait pas changer la face du monde, mais Netflix a cette capacité extraordinaire de bouger de 20% dans un sens ou dans l'autre à chaque publication trimestrielle. Mais surtout, entre les chiffres du fabricant des Pampers et ceux du diffuseur de séries qui abandonne une série sur deux en cours de route sans que tu saches comment ça se finit, il y aura Madame Brenner qui va parler. Alors oui, en général, on est mieux quand c'est Powell qui parle parce que c'est quand même lui le boss, mais à défaut d'autre chose, on va se concentrer sur la numéro 2 de la Fed qui a tendance à mettre l'ambiance chaque fois qu'elle parle de la politique des taux pour lutter contre l'inflation. Il est peu probable qu'elle vienne nous annoncer qu'ils vont baisser les taux la semaine prochaine et qu'elle envisage un putsch armé pour renverser Jerome Powell, mais force est de constater que son discours pourrait nous épicer un peu la fin de semaine et puis surtout voir si avec tout ça nous sommes capables de casser les résistances. Comme vous le voyez, la semaine aurait été tronquée par Martin Luther King, mais les jours qui vont nous rester seront bien chargés et riches en émotions. Pour le moment, le pétrole est à 79,59. L'or marque un peu le pas, mais reste très haut actuellement. L'once traite à 1914 et le bitcoin vaut 21 161 $, alors que tout le monde se demande si nous sommes au bord de l'explosion qui va l'emmener à 250 000, ou est-ce que c'est le dernier run avant l'effondrement final ? Oui, parce que quand on observe les prévisions 2023 pour le Bitcoin, il n'y a pas trop de demi-mesures, mais au moins ça nous occupe et on peut en parler dans les apéros du jeudi soir et des autres soirs aussi d'ailleurs. Il n'y a pas des tonnes de nouvelles ce matin, on se concentre sur les chiffres de la Chine et tout le monde y va de son opinion. Pendant ce temps, les élites de Davos sont en train de nous expliquer ce qu'ils savent mieux que nous et ce qu'il faut faire à l'avenir. Ils ont d'ailleurs déjà commencé à faire des prévisions, un des top shots de Citi a déjà annoncé une récession en Europe. On voit tout de suite que la prise de risque est à son top, mais on sait aussi qu'historiquement ils sont plutôt faux dans leurs prévisions, mais ça les amuse de se faire mousser en combinaison de ski et en moon boots. Pour le reste, et dans la série, on aime bien quand on se fout de notre gueule, les fondateurs du hedge fund crypto Three Arrow Capital, qui sont en fuite depuis un an, même s'ils disent qu'ils ne sont pas en fuite et qu'ils collaborent avec les autorités, bien que les autorités ne soient pas au courant de leur collaboration ni où ils se trouvent d'ailleurs, eh bien cette équipe est en train de lancer une nouvelle plateforme où ils prévoient de racheter à prix cassé les créances des investisseurs qui se sont fait démonter en crypto. Pour faire simple, si vous avez 100 000 dollars bloqués chez FTX parce que vous participez généreusement au paiement de la caution de SBF, vous pouvez vendre votre créance pour 10% de sa valeur aux mecs de Three Arrow Capital qui ont fait faillite et eux vont essayer de négocier pour récupérer un peu plus. Ce qui est génial, c'est que tout va tellement vite dans ce monde qu'on sait même plus qui est un ancien escroc, qui est un futur escroc et même que des fois, c'est les mêmes. Côté chiffres de ce matin, nous aurons le CPI en Allemagne, le chômage en Angleterre et le ZEW en Allemagne. Il y aura également le ZEW en Europe. Et puis ce soir, comme déjà annoncé, nous aurons le New York Empire State Manufacturing Index, ainsi que les chiffres de Goldman Sachs et de Morgan Stanley. Pour le moment, les futurs sont en baisse de 3 fois rien, et demain sera un autre jour. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Soyez forts, et à demain.